Bretagne 5.
Bonsoir à tous. La mobilisation se poursuit à Sciences Po Paris. Des dizaines d'étudiants sont sur place pour défendre la cause palestinienne. Le comité Palestine de Sciences Po réclame la condamnation claire des agissements d'Israël. Un mouvement similaire à ce qui se passe dans plusieurs universités américaines. La candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, s'est déplacée sur place cet après-midi pour apporter son soutien. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, elle, condamne fermement ce blocage. 6000 membres des forces de l'ordre mobilisés à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique le 8 mai. Précision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 150 000 personnes pourront assister à cette arrivée, ainsi qu'aux animations et aux concerts qui seront organisés dans la soirée. Les 4000 bateaux de ce vieux port seront aussi passés au crible du déminage. Cette flamme olympique sera officiellement remise aux organisateurs français en fin d'après-midi lors d'une cérémonie à Athènes. Un membre de l'ultra-droite présenté à un juge antiterroriste à Paris. Cet homme de 23 ans prévoyait des actions violentes. Il recevait des armes par colis. Un drapeau nazi a été retrouvé lors de la perquisition de son domicile. 5 personnes, dont un mineur, sont déjà mises en examen dans cette affaire. La France suspendue à la décision des agences de notation. Fitch et Moody's se prononceront ce soir sur la santé financière de l'Hexagone et donc sur la capacité du pays à rembourser sa dette. Le gouvernement a déjà prévu un plan d'économie de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Un centre de dépistage du choléra mis en place à Mayotte a pris 3 cas autochtones confirmés, c'est-à-dire des patients qui ont été contaminés sans quitter l'île. Ils ont été hospitalisés et sont en bonne santé. Outre le centre de dépistage, des renforts médicaux sont attendus et plus de 2000 doses de vaccins ont été commandées. Et puis du basket ce soir, victoire impérative pour Monaco en Euroleague. Le champion de France reçoit de nouveau Fenerbahçe dans le match 2 des quarts de finale. Battu de justesse mercredi, les Monégasques doivent égaliser avant de disputer les prochains matchs à l'extérieur. Coup d'envoi à 19h. Voilà pour l'info, passez une excellente fin d'après-midi.
Bretagne 5.
Page blanche. Une émission proposée par Michel Philippot. Eh bien, bonjour. Page blanche, Michel Philippot. Je reçois aujourd'hui un journaliste devenu jeune romancier. Avec la parution en octobre 2023 d'un premier roman aux éditions Robert Laffont sous le titre « Je boirai mon sang » et sous-titré « Armand de la Rouerie, rebelle en Haute-Bretagne et jusqu'en Amérique ». Mon invité a en commun avec le héros de son roman d'être né à Saint-Brice-en-Cogle, aujourd'hui comme une nouvelle de Menroc. Fils de paysan breton, mon invité est né en novembre 1961 et c'est au Cordelier de Dinan qu'il obtient son baccalauréat avant de rejoindre l'université de Tours dont il sort diplômé. Il rejoint le journal Ouest France en 1985 comme secrétaire de rédaction et occupe successivement différentes fonctions, Quimper, Lisieux, Vire, gravit les échelons au fil des années, directeur départemental dans l'Orne, puis dans la Manche. C'est en 2003 qu'il prend la responsabilité de Dimanche Ouest France en tant que rédacteur en chef délégué, évolue vers le poste de directeur de l'information régionale et locale, puis rédacteur en chef à partir de 2014. Il rejoint le directoire d'Ouest France en 2020, avant d'en assumer la présidence depuis juin 2023. Il confiait aux colonnes d'Ouest France, dans un article daté du 7 novembre 2023 et consacré à son roman tout juste sorti des presses, je le cite, « J'ai passé mon enfance au pied des tulipiers de Virginie, qu'Armand de la Rouerie avait rapporté d'outre-Atlantique et qui me fascinait. Je me demandais ce qu'il avait voulu nous dire en plantant ces arbres. Ce livre, je l'ai en tête depuis que je suis gamin. » J'ai le plaisir, dans Page Blanche, aujourd'hui, d'en accueillir l'auteur, François-Xavier Lefranc. François-Xavier Lefranc, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, il vous appartient, François-Xavier Lefranc, de vous saisir cette présentation très rapidement, de réagir, la corriger, la compléter, l'amender. Vous avez toute latitude.
Ouais, bah écoutez, le parcours professionnel, vous l'avez dit, mais là, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de ce livre, de cette histoire, de ce personnage, une histoire qui m'habite depuis que je suis vraiment enfant. Moi, quand j'ai appris dans la cour de la ferme de mes parents à faire du vélo, mes parents me disaient, relève la tête et regarde les arbres de la Rouerie pour pas tomber. Et donc j'avais toujours ces grands arbres. Alors deux platanes et puis deux tulipiers, dont l'un est un arbre absolument extraordinaire. Ils sont toujours évidemment debout aujourd'hui. Je suis fasciné par les arbres d'une façon générale. Et oui, je me disais toujours, mais qui était ce type qui est allé se battre en Amérique, dont on me dit que voilà, il était un héros de la guerre d'indépendance des États-Unis. Qui était-il? Et voilà. Eh bien, je m'étais dit un jour, j'écrirai sa vie.
Alors justement, François-Xavier Lefranc, questionnant quelques amis les jours derniers, je me suis aperçu que si Lafayette restait un personnage historique bien en lumière, il était loin d'en être de même pour Armand de la Rouerie, dont le nom même manque singulièrement de visibilité, ici en Bretagne et dans les Côtes d'Armor, ce qui résonne comme un comble puisqu'il y a sa sépulture. Alors vous avez écrit un roman de 363 pages sur ce personnage. Je vous lance, François-Xavier, très amicalement, le défi de le présenter en une phrase aussi synthétique que possible.
Eh bien, c'est un noble breton du pays du Couesnon, né à Fougères. D'ailleurs, sa maison natale, c'est l'actuel tribunal de Fougères. Un jeune homme orphelin de père, intenable. Il était intenable, que sa famille a envoyé dans les régiments d'Irois, les gardes françaises, dont il s'est fait chasser, après s'être battu en duel et après bien des péripéties. Il part en Amérique pour se battre pour la liberté, se battre face aux Anglais. Il devient très proche de Washington, dont il va commander des troupes de commandos. On pourra y revenir, des troupes faites de briques et de broc avec des gars qui venaient d'un peu partout, de différentes nationalités, des repris de justice, des gars qui sortaient de prison. Et avec ça, il faisait des troupes et il a fait des coupes pendables là-bas. Il a passé plus de temps que Lafayette en Amérique, il est arrivé un peu avant lui et il est parti 2 ans après lui. Il est revenu 2 ans après lui. Voilà, il a été fait général à la fin de la guerre d'indépendance par Washington. Et quand il est rentré en France, il s'attendait à ce que le roi fasse de lui un général de régiment de cavaliers. Or, le roi ne l'a pas écouté, lui a simplement proposé d'être colonel d'un régiment de fantassins. Et là, ça a été une cassure qui a vraiment fait du mal à la Rouerie. Il est rentré en Bretagne et on est dans la période pré-révolutionnaire. Et la dernière partie de sa vie, eh bien, c'est la création d'une association contre-révolutionnaire et une fin de vie qui assez noire d'ailleurs, qui va mal se terminer.
Alors on va pas tout raconter en même temps, voilà, vous avez été très synthétique.
Une phrase c'est dur.
En une phrase c'est très dur, oui. C'est un challenge.
Ouais.
Alors François-Xavier Lefranc, je vous ai invité dans Page Blanche, je vous l'avais rappelé, en tant que romancier. Tout à fait, mais on ne peut occulter le fait que vous êtes journaliste, évidemment. Et le journaliste, il vérifie les faits, s'assure de la véracité de ses sources. « Je boirai mon sang » est un roman historique à la croisée de la fiction et de la réalité historique. Alors, dans ce roman précis, de quelle manière, on va dire, le journaliste soucieux des faits et des sources, de l'objectivité du récit, a-t-il pesé sur le romancier ?
Bien, c'est très simple en fait. J'ai mis du temps pour faire des recherches, pour aller sur les lieux en Bretagne, mais aussi aux États-Unis, et je voulais être au plus proche de la réalité historique. Ce que nous ont laissé les historiens de la Rouerie, beaucoup de choses ont été écrites sur lui. J'ai tout lu, tout ce qui a été écrit sur lui en France et aux États-Unis. Mais il y avait évidemment quelques trous. Il manquait quelques passages, et donc j'ai imaginé ces moments sur lesquels l'histoire ne disait rien.
C'est là où le romancier a pris le relais.
Exactement. Et je voulais surtout le raconter parce que c'est un personnage de roman. Sa vie est absolument incroyable. Le personnage était incroyable. C'est un vrai personnage de roman. Et il n'y avait pas de roman sur racontant toute sa vie. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Parce que je me suis dit, il y a eu des biographies. Je vais pas en écrire une de plus. Qu'est-ce que ça ajouterait? Mais je voulais vraiment que ce soit un roman. Et j'ai voulu le raconter comme je me l'imaginais. Parce que je me l'imaginais depuis mon enfance. Et j'ai voulu vraiment raconter cet Armand que je m'imaginais.
Alors, le roman que vous avez écrit, il court sur 363 pages, on l'a dit tout à l'heure. Il est fractionné en 61 chapitres, très courts, qui s'enchaînent dans une séquence chronologique de la naissance à la mort de votre personnage. 61 chapitres, comme j'ai envie de dire, je vais pousser jusque-là, autant de mini-reportages qui construisent peu à peu l'histoire, en alternant action, réflexion, analyse. Et il y a, à mon sens, une démarche qui s'apparente à de l'écriture journalistique ici, dans la structure même du roman. Est-ce que vous souscrivez à cette vision que l'on peut avoir de votre roman ?
Oui, mais je trouve que j'aime le genre journalistique qui est le portrait. C'est-à-dire raconter une personne à travers son contexte de vie, à travers le lieu où elle vit, le lieu d'où elle vient. Raconter la personne et raconter les lieux. Je pense que c'est pour essayer d'approcher la vérité d'une personne, c'est cela qu'il faut faire. Donc je me suis beaucoup attaché à ça. En plus, ça parle d'un pays, donc la Haute-Bretagne, qui est mon pays, j'y suis évidemment très attaché. Et ça parle de lieux qui sont des lieux d'ailleurs assez magnifiques. Donc je n'ai pas eu à me forcer. Je voulais raconter la rouerie, raconter les personnages qu'il y avait tout autour de lui, parce qu'il y a vraiment eu autour de lui des gens assez extraordinaires, et raconter les lieux, et notamment ce pays du Couesnon, qui est le pays de la rouerie, finalement.
Mmh. Alors, les premiers chapitres retracent l'enfance d'Armand de la rouerie. Oui. Vérité historique ou fiction, je l'ignore, mais... Vous citez le mot de son père à sa naissance, c'est à la page 32. « Voici notre nouveau général », avait-il lancé à la cantonade, « il va conquérir l'Angleterre ». Alors ce père mourra 3 ans plus tard, donc il le connaîtra très peu, ouais. Mais on garde le sentiment que le jeune garçon va se construire peut-être sur cette prédiction, en tout cas dans votre roman. Peut-être même qu'ils se sont prédestinés à quelque chose.
Oui, très certainement. Il était en recherche d'un idéal qui l'enflammait en permanence. Il a su cela de son père, parce que cette phrase, son père l'a réellement prononcée au moment de sa naissance. Et la rouerie, n'ayant pas connu son père, ou très peu, il avait 3 ans quand il est mort, s'est beaucoup rapproché de son grand-père maternel, son grand-père maternel, le comte de la Bélinay, le vicomte de la Bélinay, dont il a été très proche. Et il avait également deux oncles, les deux frères de sa mère, qui ont joué un rôle important auprès de lui.
Charles et Maurice.
Charles et Maurice. Voilà. Voilà. Charles et Maurice de la Bélinay. Charles de la Bélinay, c'était deux officiers. Mm-hmm. Maurice a été guillotiné en 1994. Charles de la Bélinay n'a pas été guillotiné. Il est parti en exil. Mais c'était un officier. Et c'est lui qui accueille Armand de la Rouerie à Paris.
À Paris, oui.
Charles de la Bélinay menait grande vie à Paris et va se charger à Paris de faire l'éducation de son neveu, qui n'avait pas besoin qu'on l'entraîne. Et tous les deux ont fait les 400 coups et ça s'est mal fini pour Armand de la Rouerie, puisqu'il a fini par se battre en duel avec le comte de Bourbon-Busset, très proche
du roi. Du roi, oui.
Voilà, et le roi, dans un réflexe de colère, a d'abord dit qu'il allait faire pendre la rouerie, et finalement il l'a chassé des gardes françaises en lui demandant de ne plus quitter la Bretagne d'où il venait.
Voilà, il l'a confiné là-bas.
Pour tout exactement.
Voilà. Alors, on va aller au rythme de l'enfance, hein, quand même. Oui. Donc, dès l'enfance, le roman décrit Armand de la Rouerie comme un chef, parce qu'il est quand même, dans ce que vous racontez, dans l'histoire que vous mettez en scène, il est capable de mobiliser une bande de gamins dont il fait son armée. Alors, ça pourrait être du jeu, on pourrait voir ça comme un jeu, mais j'ai pas l'impression qu'il le prend du tout comme cela, lui. Alors, quelles sont les qualités, finalement, dont il fait preuve déjà dans ses années d'apprentissage ?
Alors, il y a des témoignages très précis sur Armand de la Rouerie, de gens qui l'ont connu, qui l'ont approché, qui ensuite ont écrit des choses, et tous disent qu'il avait un charisme réel. C'était quelqu'un qui était en agitation permanente, physiquement il bougeait beaucoup, il parlait sans arrêt, il entraînait, et toute sa vie ça a été quelqu'un qui a entraîné. Il ne supportait pas l'autorité. Celle de Washington, qui est vraiment la seule autorité qu'il ait jamais respectée, mais supportait pas l'autorité de sa mère, l'autorité de... Quand il était officier, il ne supportait pas l'autorité de ses officiers supérieurs. Il y a que George Washington qui l'a réellement fasciné. Et dès l'enfance, il était comme ça. Alors on sait de lui qu'effectivement, il montait des bandes avec les enfants de paysans, et il passait son temps dans les chemins, à courir, à chasser l'anglais. Voilà. Et ça, c'est la première partie du livre. J'ai voulu raconter tout cela avec des personnages. Alors, parmi les enfants, il y en a un que je cite, un certain Lefebvre, mm-hmm. Qui a existé parce qu'il est parti d'ailleurs avec Armand en Amérique plus tard.
Oui.
Et les autres, j'ai voulu recréer cette période-là. On n'avait pas les identités des enfants en question, mais ils ont bien existé. Et j'ai voulu raconter cela. Voilà. Parce que je pense qu'il fallait, pour comprendre Armand de la Rouërie, il faut commencer par l'enfance.
Oui, parce que c'est fondamental, c'est vraiment ce qui va, dans l'avenir, dans sa vie, qui va fonder son caractère. Alors, j'aurais m'arrêté un instant sur le titre de votre livre, parce que « Je boirai mon sang », c'est le titre du roman. C'est un titre quand même à la résonance quelque peu macabre, hein, mais qui a ses racines dans l'histoire. Dans l'histoire de la Bretagne. Voilà. Il y a du sens derrière ce titre, il y a le combat des Trente.
C'est ça, donc 4 siècles avant le combat des Trente, les chevaliers de Beaumanoir, des chevaliers bretons contre des Anglais, le chevalier Beaumanoir au cœur de la bataille a soif, il meurt de soif, et le chevalier de Boves lui dit, eh bien, bois ton sang Beaumanoir, la soif te passera. Moi, Beaumanoir, j'en ai entendu parler quand j'ai fait mes études à Dinan, au Cordelier, vous en parliez, donc ce personnage de Beaumanoir, je trouvais cette phrase assez fascinante, et je m'étais dit, finalement, cette phrase, elle dit bien ce qu'était Armand de la Rouërie. Et j'ai voulu, c'est la première phrase que j'ai écrite, le titre, je me suis dit, ce sera le titre du livre, d'abord parce que ça fait référence à l'histoire de la Bretagne, et puis parce que ça raconte, en fait, ce qu'était réellement la Rouërie. Il était vraiment fait comme ça, lui.
Alors, on va revenir à sa personnalité. Il y a donc chez Armand de la Rouërie une dimension très, très chevaleresque aussi. Ouais. Je pense par exemple à sa rencontre avec Marie. C'était une mendiante, dite ouais. La Bourrique, un personnage, je ne sais pas s'il est fictif, mais je crois qu'il l'est, ou
oui.
Vous le dites quelque part.
Oui.
Mais qui va l'accompagner, physiquement, pas vraiment, mais dans sa tête, ouais. tout au long du récit. Alors, il y a cet épisode où elle est blessée d'une certaine manière, elle refuse toute aide par certaines fiertés, évidemment. Ouais. La Rouërie va se mettre en tête de s'en occuper, ouais. de la soigner, ouais. Contre presque son gré. Et il y a cette scène que je prolonge un petit peu, son oncle Maurice, qui est présent dans cette affaire, ouais. lui rétorque que s'occuper des mendiants, c'est le rôle des curés, pas d'un jeune noble comme lui. Et je crois que c'est là un épisode emblématique, parce que on voit chez le jeune Armand de la Rouërie son rejet de l'ordre social et son rejet de cette logique de classe liée à la naissance.
Exactement.
Il est tout est là.
Il refusait les mérites de naissance. Il estimait que chacun doit gagner ses mérites. C'est à chacun de gagner ses mérites. Et il n'a jamais fait de différence entre les nobles et les autres. Et dans toute sa vie, y compris tout à la fin de sa vie, il avait des lieutenants qui étaient des nobles, d'autres qui étaient des paysans. Il ne faisait aucune différence. Et surtout, il s'est beaucoup appuyé sur les réseaux de mendiants et de faux-sauniers, les trafiquants de sel, entre la Bretagne et le Maine notamment. Et ces réseaux-là, il était proche de ces réseaux-là. Et donc, c'est ce personnage qui lui tient tête, qui est une mendiante, une jeune femme qui va lui tenir tête. Alors, je ne raconte pas la fin, parce qu'il y a toute une intrigue autour de ça. Ce personnage, il dit même à un moment donné, en la regardant et en la voyant souffrir, et il lui dit, t'aurais fait un sacré soldat. Et c'est donc ce personnage-là a un rôle important pour montrer en miroir le caractère et l'âme de la Rouërie.
Alors, je vous propose une pause musicale. Vous avez choisi quelque chose de tout à fait inédit. On l'écoute et on en reparle juste après. Thank you. marquis de la Rouairie, de Michael Le Marié. Alors, c'est un inédit absolu, là.
Oui, tout à fait. Alors, Michael Le Marié, je la connais depuis très peu de temps, c'est une musicienne rennaise. Qui travaille beaucoup les musiques et notamment les musiques anciennes et qui a écrit cette musique en l'honneur de La Rouairie, qui est un personnage qui la fascine aussi et qu'elle connaissait. Et donc c'est une musique qu'elle a terminée il y a très peu de temps. Je la trouve très belle, très évocatrice de ce qu'était La Rouairie. Moi, j'écoutais beaucoup de musique en racontant La Rouairie et je me disais que en écoutant cette musique, je vois les scènes. Et c'est vraiment très réussi. Alors, je voulais aussi lui rendre hommage parce qu'il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à La Rouairie. Et ce qui compte, c'est qu'ils sortent de l'oubli. Et ce beau travail musical, vraiment, y participe.
Alors, on rappelle son nom ?
Michael Le Marié.
Michael Le Marié. Cette musique va être disponible sur les réseaux, vous ne savez pas trop pour le moment.
Oui, alors elle vous le dira mieux que moi, mais là, oui. elle a terminé
pour
ça
le moment,
quelques semaines.
Elle termine son œuvre.
Et elle a un groupe de musiciens, et donc je pense qu'elle le diffusera. C'est une musique qu'on retrouvera assez facilement.
Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, on a ici une belle évocation de ce personnage. Alors, dans ce roman, François-Xavier Lefranc, la Haute-Bretagne est aussi un personnage que vous vous attachez à faire revivre. Avec son mode de vie, les réceptions entre châtelains, les déplacements d'hiver, d'été dans les différentes résidences, le labeur des paysans, la présence d'une domesticité nombreuse, tout ça est très présent. Et puis sur les chemins, parfois peu sûrs, on croise toute une théorie de personnages, les mendiants, les faussonniers, vous en parliez tout à l'heure, colporteurs, sabotiers. Tout cela, on le découvre dans le roman, ça apparaît très naturel, mais pour arriver à cela, vous parliez de 4 ans de travail, il y a aussi tout un travail de recherche, de documentation. Alors, à quelle source vous êtes-vous abreuvé ?
Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources. Alors, ce pays, je le connais, puisque c'est mon pays, et j'en connais peut-être pas chaque chemin, mais je le connais bien. Les sources, elles sont très diverses, des sources bretonnes, des sources dans les archives, des sources aux États-Unis, et j'ai croisé tout cela. Mais le pays en question, pour bien le visualiser, il faut partir de la Mayenne, ce qu'on appelait le Maine, juste après Fougères, et on remonte jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et du Maine au Mont-Saint-Michel, il y a une rivière qui s'appelle le Couesnon, qui, arrivée au Mont-Saint-Michel, sert de frontière entre la Bretagne et la Normandie. Et bien, c'est ça, le pays de la Rouairie. C'est tout ce pays-là. Donc il est né à Fougères, il a vécu à Saint-Ouen-la-Rouairie, à côté d'Entrain, une commune qui s'appelle aujourd'hui Valcoinon, qui porte le nom de cette rivière. Et pendant la période, donc après la Révolution, il s'est caché d'ailleurs dans un tas de manoirs et châteaux, y compris dans des forêts, dans tout ce pays-là, jusque dans les Côtes d'Armor, puisqu'il est venu mourir effectivement on en parlera tout à l'heure, à Saint-Denoual.
Voilà, au manoir de la Guillaumarée.
Voilà.
Alors, là, on parle des lieux. Moi, j'aimerais bien évoquer également la langue. Parce que, par la langue, vous ancrez aussi le roman dans le siècle, dans le 18e. Alors, votre texte n'est pas écrit en français de l'époque, évidemment, et il reste absolument lisible. Je dis ça pour nos auditeurs et auditrices qui auraient peur, pas du tout. Mais il y a certaines formulations, il y a tout un travail très précis sur le lexique qui plonge dans le quotidien de l'époque et il transporte le lecteur et qui permet d'adhérer au récit en le crédibilisant. En fait, c'est ça la littérature, vous vous rendez compte de l'époque, y compris par la langue.
Oui, je ne voulais pas utiliser des mots qui n'existaient pas à l'époque. Et donc j'ai essayé de me rapprocher du vocabulaire courant de l'époque. Pas le vocabulaire des gens lettrés lorsqu'ils s'écrivaient, qui était assez ampoulé, mais vraiment du vocabulaire courant, qui était le vocabulaire que Armand utilisait quand il l'était avec tous ces gens qu'il côtoyait, qui n'étaient pas nobles. Il côtoyait des nobles aussi, mais j'ai essayé de tenir ce cap-là. Et je pense que c'était important. Je me suis parfois interdit quelques mots parce que ces mots-là n'existaient pas à l'époque. Donc j'ai essayé d'être vigilant là-dessus.
Écoutez, je dis ça sans aucune flagornerie, ça fonctionne très bien. Et on se retrouve tout à fait dans l'époque, dans cette langue fluide et très naturelle finalement. Et qui correspond évidemment au personnage. Alors, On est étonné dans le roman, François-Xavier Lefranc, par, j'ai envie de dire, par la maturité politique d'Armand de la Rohérie. On est toujours dans ses années d'enfance, il est toujours, il n'est pas encore à Paris, il a 13 ans à peu près, pose un regard très informé, très critique sur la société de son temps. Dans les échanges qu'il entretient avec son grand-père, le vicomte de la Bélinay, il se passionne, il s'enflamme pour les événements qui opposent. Alors, il y a la noblesse au pouvoir royal, il y a effectivement toute cette situation pré-révolutionnaire, quoi. Le jeune marquis de la Rohérie, il aura vite fait de choisir son camp. Quand je dis choisir son camp, je pense par exemple au duc d'Aiguillon et à la Chalotais, rapidement.
Alors, il faut replacer ça dans l'époque. Là, on parle de ce qu'on appelait l'affaire de Bretagne.
Oui.
L'affaire de Bretagne, c'était donc les magistrats du Parlement de Bretagne qui s'opposaient fortement aux ministres du roi. Les ministres du roi, parce que la guerre de 7 ans avait été perdue, avait coûté beaucoup d'argent, donc les caisses du royaume étaient vides, et donc de nouveaux impôts allaient être imposés aux Bretons, et les magistrats du Parlement de Bretagne ne voulaient pas de cela. Et donc, à la tête du Parlement de Bretagne, il y avait un président, il y avait surtout un procureur général, Louis-René de Caradoc de la Chalotais, c'est lui qui a mené vraiment la bagarre face au ministre du roi, et face à lui, il y avait le duc d'Aiguillon. Alors en fait, les deux personnages, le duc d'Aiguillon commandait en quelque sorte les troupes stationnées en Bretagne, c'était le commandant en chef de la Bretagne, et le procureur général du Parlement de Bretagne, l'un et l'autre étaient nommés par le roi en fait. Et donc, malgré cela, ils se sont opposés extrêmement violemment. Ça a été une haine absolument frontale entre ces deux personnages. Et cette affaire de Bretagne, eh bien, ça va se terminer par l'arrestation de Louis-René Caradoc de la Chalotais en 1765, le 11 novembre 1765, dans la vieille ville de Rennes, dans un immeuble qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Voilà. Et donc ça enflammait évidemment les esprits. Armand de la Rouérie va être très très proche du neveu de la Chalotais. Et sa famille, la famille d'Armand de la Rouérie, tous ces nobles-là étaient très proches des idées du procureur général de Bretagne. Donc forcément, il s'est trouvé embarqué dans cette bataille politique du moment. Il faut savoir que la Rouérie était très intelligent. C'était un esprit très vif, qui apprenait tout très vite, qui parlait plusieurs langues et qui donc s'intéressait à tout ce qui se passait autour de lui. Et donc très vite, il a voulu participer à cette bataille. Il avait toujours besoin de se battre. Toujours besoin de mener des combats, et tout au long de sa vie, jusqu'à la dernière heure, ça n'a pas cessé. Il était comme ça. Voilà.
Alors justement, et c'est ce qui va lui jouer des tours, parce que on est en 1766, et après la Bretagne, eh bien l'apprentissage du jeune marquis de la Rouérie passe par Paris, Versailles, voilà. Après l'obtention de son brevet d'officier et enseigne. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'ennuie ? Il s'ennuie parce que son régiment, c'est un régiment de parade, c'est pas un régiment de combat.
Oui.
Lui, il veut en découdre, c'est un homme d'action.
Voilà, alors sa famille lui a acheté un brevet d'enseigne. L'enseigne, c'était le premier de niveau des officiers, comme ça se faisait à l'époque. Et lui, il partait là-bas pour apprendre à se battre. Mais à l'époque, les gardes françaises, la guerre de 7 ans était finie, les gardes françaises étaient devenues des régiments de parade. Et donc, très vite, il va s'ennuyer entre Versailles et Paris. Et donc, pour tromper l'ennui, eh bien, il va suivre son oncle et commencer à mener grande vie à Paris. Et c'est là que les choses vont commencer à mal se passer. Alors, il y a à peu près 10 années qui se déroulent. Alors, on ne va pas tout raconter. Mais il a le temps de faire beaucoup de conquêtes féminines. Il aura même d'ailleurs un enfant avec une cantatrice dont il est tombé amoureux. Il se trouve que c'était la maîtresse de son oncle, et ça il l'a découvert après. Donc il lui arrive plein de choses comme ça, et jusqu'au moment où il y a ce fameux duel avec le comte de Bourbon-Busset, et là ça se termine tragiquement pour lui, puisqu'il est chassé de Paris en fait.
Alors vous le décriviez, c'est toute cette période, il a quoi, une quinzaine d'années quand il arrive sur Paris?
Alors il est né en avril 1751,
voilà.
Et il part effectivement à Paris à l'âge de 15 ans.
Voilà.
Voilà, et il va revenir en Bretagne à 25 ans, et il part en Amérique à 25 ans, et il posera le pied en Amérique le jour de ses 26 ans.
Exactement. Alors, il va d'ailleurs y arriver, mais on y reviendra d'une manière un peu non conventionnelle.
Oui, oui. Alors ça a été à l'image du personnage. Donc, en Bretagne, il revient en Bretagne, il s'ennuie, il est catastrophé, il déprime parce qu'il voit que sa carrière militaire elle est terminée, elle est derrière lui. Il a besoin de combats à mener et il fréquente les réseaux de francs-maçons. Comme beaucoup d'officiers de l'époque. Et là, il entend très vite parler des 13 colonies, de ces colonies en Amérique qui ont pris leur indépendance et qui se battent face à l'anglais. Et là, il se dit, ben voilà, ça c'est le combat que je vais aller mener, je vais donc partir en Amérique. Alors, il n'a pas été le seul, il faut rappeler qu'il y a eu 20 000 Bretons qui ont participé de près ou de loin à la guerre d'indépendance des États-Unis, on ne le rappelle jamais assez. Ça n'a pas été le premier, mais ça a été un des premiers officiers, un des premiers jeunes officiers à partir en Amérique. Alors il part comment ? Il part avec un domestique, le fameux Lefebvre. Ils essaient il est en contact avec Beaumarchais, qui faisait du commerce à partir du Havre. Il n'a pas pu embarquer au Havre, il descend à Nantes. Et là, à Nantes, il va embarquer à bord d'un bateau qui s'appelle le Maurice. Et c'est un bateau américain qui fait du commerce entre Nantes et les États-Unis. C'est un bateau qui est chargé de vivres et qui est chargé de poudre également. Et donc, ils embarquent. Il traverse, alors c'était 8 semaines à l'époque, et puis alors dans des conditions assez rudes. Et le 13 avril, le 13 avril 1777, donc le jour des 26 ans de la Rouerie, le bateau est face aux côtes américaines, face à la baie de Chesapeake. Alors géographiquement, c'est à peu près au niveau de Norfolk, pour ceux qui connaissent, on n'est pas très loin de Philadelphie. Et là, deux frégates anglaises arrivent et commencent à canonner le Maurice. Le Maurice est perdu puisque là il n'était pas en position de force et le commandant du Maurice qui s'appelait le capitaine Anderson, James Anderson, décide de faire sauter son bateau parce qu'il ne voulait pas que la poudre tombe aux mains des Anglais. Il confie à la Rouerie un message qu'il devait porter, un message de Benjamin Franklin
pour le congrès
des États-Unis. Mmh. Et donc il fait sauter à l'eau en fait tout l'équipage du bateau, et la Rouerie et Lefebvre arrivent à la nage et le bateau explose. Alors on imagine cette scène, ça s'est réellement passé comme ça. Déjà le jour où il met le pied en Amérique, il arrive dans des conditions absolument dantesques. Voilà, il y a eu pas mal de victimes, et là eh bien ils repartent, ils vont aller à pied jusqu'à Philadelphie pour rencontrer le congrès. Et c'est là que va se passer. Donc il y a une première rencontre à Philadelphie, puis quelques semaines plus tard, la rencontre de sa vie avec George Washington, un personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire.
Voilà. Alors ça, c'est le chapitre 31.
Ouais. Voilà. Ouais, ça va vite.
Hein. Oui, ça va très vite. Hein. Bon. Alors moi, j'aurais voulu revenir un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien, parce que votre sujet, vous le connaissez tellement bien, vous vous laissez emporter, c'est formidable. Vous faites le travail, finalement. Alors, toute cette période où il est à Paris lui fait découvrir la vie parisienne, les cabarets, les lieux de la pensée, Café Procope, etc. Je suis désolé. Il est là sous la conduite de son oncle, Charles, et il se vautre un petit peu dans la luxure même, hein, on peut le dire.
Oui.
Et on sent quand même que tout ça, ça le travaille, que toute cette situation politique le travaille. Et je pense par exemple à cette expérience qu'il a, que vous décrivez, c'est à la page 165, où il assiste en place de grève à l'exécution du baron Lally Tollendal.
Ouais.
Alors, il dit ceci. Armand était blême. S'il n'avait pas vu la lame trancher le cou du supplicié, il apercevait maintenant le sang, car devant lui, les gardes s'étaient écartés, frappés eux aussi de stupeur. Est-ce cela la justice d'un roi ? Dit-il à haute voix. Ah, ça n'est sans doute pas ce que voulait le souverain, répondit Charles, songeur. Le pouvoir absolu se croit en mesure de décider de tout, mais il est parfois bien aveugle. Alors, on entend quand même là les germes de la rébellion, les germes de la sédition même. En quoi cette exécution va lui paraître inique, insupportable ? Et de quoi finalement l'infortuné baron était-il coupable ?
Alors, la Lally-Tollendal, il avait perdu Pondichéry, et
voilà,
on ne lui a pas pardonné. C'était un officier supérieur, mais qui menait ses hommes de façon extrêmement dure. Et il y avait d'ailleurs eu des révoltes dans ses troupes. Et donc, le roi avait considéré qu'il était le fautif. Voilà. Et donc, il a voulu faire un exemple. Mais surtout, le jour de l'exécution, le bourreau, le bourreau, Samson, propose à son fils, parce que la charge de bourreau se transmettait de père en fils, il propose à son fils d'exécuter Tollendal. Et donc, c'était avec une hache, une grande hache à l'époque, et le fils prend la hache, frappe Tollendal et le rate. Et donc, ça a été terrible. Il a eu le cou à moitié tranché, mais il vivait toujours, il criait. Et là, le père, le bourreau, donc reprend la hache et finit le travail que son fils n'avait pas pu mener à bien. Et cette scène avait, à l'époque, beaucoup choqué. Et d'ailleurs, chez beaucoup d'officiers, ça avait créé, évidemment, un grand trouble. Donc, la Rouerie, assistant à ça, est forcément, lui aussi, choqué par cette scène qui est, en fait, c'est la première fois qu'il voit un homme mourir de cette façon-là. Donc c'est un moment dans sa vie un peu, évidemment, un moment marquant.
Alors il y a évidemment la scène qui le choque, mais il y a aussi cette remarque sur le pouvoir royal, oui, qui lui paraît quand même.
C'était un royaliste,
oui,
la Rouerie, mais il s'opposait au pouvoir absolu du roi.
Voilà.
Il était contre le pouvoir absolu du roi. Et d'ailleurs, à cette époque, il était très ouvert aux idées nouvelles qui ont généré la Révolution. Mmh. Il était très ouvert à ça. Les choses devaient changer. Il est parti aux États-Unis pour soutenir la Révolution et se battre contre le roi d'Angleterre. Dans la dernière partie de sa vie, il va monter un mouvement contre-révolutionnaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et c'est ça, finalement, le mystère de la Rouerie. En fait, c'est toute l'histoire du basculement de ce qui donnera plus tard la chouannerie.
La chouannerie, oui.
Il y a un basculement. On pourrait, par exemple, parler de Cadoudal. Ça n'a rien à voir. Cadoudal avait 20 ans de moins que la Rouerie. En 1789, Cadoudal était dans les rues de Rennes, et avec les étudiants en droit qui commençaient à s'opposer frontalement à la noblesse. Donc il était du côté de ce qu'on allait appeler les républicains. Et qu'est-ce qui fait qu'il va basculer Cadoudal lui aussi et devenir plus tard un général chouan et d'ailleurs finir guillotiné? C'est cette cassure de la Révolution, c'est la constitution civile du clergé, c'est l'appel aussi à la conscription, notamment au début de l'année 93. C'est tous ces événements-là qui font que beaucoup vont basculer dans la contre-révolution. Donc c'était une période très très complexe, mais il est intéressant de ne pas caricaturer, c'est-à-dire c'était pas un royaliste qui ne se posait aucune question, là on rit pas du tout. Il aurait même pu passer de l'autre côté et devenir républicain. Certains nobles ont fait ce chemin-là, il a été travaillé par ça. Et comme il avait toujours besoin de s'opposer, lorsque la Révolution a pris le pas, il fallait qu'il s'oppose. De toute façon, il était comme ça.
Alors, ce qui sera sans doute la pierre d'achoppement, là, ça va être la question religieuse, avec les prêtres jureurs et les autres.
Exactement. Alors la Constitution civile du clergé, c'est l'été, c'est l'été 1790, donc c'est un an après la prise de la Bastille, et ça c'est un moment de basculement. Donc il y a les prêtres jureurs qui acceptent de jurer fidélité à la Constitution civile, et puis il y a les prêtres réfractaires qui vont être emprisonnés. Il y a plusieurs centaines de prêtres réfractaires qui seront emprisonnés, par exemple au Mont-Saint-Michel, dans les cachots du Mont-Saint-Michel. En Bretagne aussi, toutes les paroisses sont traversées par cette cassure, et ça a été une ligne de fracture en fait majeure.
Je vous propose de souffler quelques minutes avec Dénès Prigent et on le désannonce juste après. Oh, we are.
Papa. Oui, amaguelo.
Prison dans ce morceau que je vais tenter de prononcer en breton, ou peut-être pouvez-vous me relayer.
Gortozaran.
Voilà.
Alors j'attends.
Voilà. Et ce choix, il a un sens évidemment lié à...
Oui,
à
d'abord c'est un morceau absolument magnifique,
oui,
d'un grand artiste, Denis Prigent. Et alors le clin d'œil, c'est que c'est un morceau qui a traversé l'océan lui aussi, puisqu'il a été choisi comme musique du film La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Voilà, donc c'est un petit peu un clin d'œil, et je trouve, à chaque fois que je l'entends, je trouve que ça prend au trip, je trouve que c'est très beau, c'est un très très beau, comme beaucoup des morceaux de Esprit Jean d'ailleurs, qui est un artiste que j'aime beaucoup, donc voilà, c'était aussi une façon de lui rendre hommage, et puis on peut comme ça sauter les époques. Ce qui lit tout ça, c'est la Bretagne. Hein.
Évidemment. Alors, on revient, parce qu'on l'a laissé, ce pauvre Armand de la Rouerie, on l'a laissé sur une plage, là. Il en arrive à la rencontre, à sa rencontre avec George Washington. Et là, je me suis demandé sur quelle réalité historique est-ce que vous avez appuyé votre récit, François-Xavier Lefranc. Et puis, quel rapport vont se nouer entre les deux hommes?
Alors, d'abord, ça a été raconté. Là, on est aux États-Unis, et sur tous les épisodes que je raconte aux États-Unis, il y a des archives et qu'on peut consulter assez facilement. Il a été accueilli chez Washington par un officier supérieur qui était Alexander Hamilton, qui était un jeune officier brillant, l'aide de camp de Washington. Et Alexander Hamilton a joué un rôle important ensuite dans la vie politique des États-Unis, puisque c'est en quelque sorte le père du dollar américain. Et donc il y a un premier contact très fort entre Hamilton et la Rouerie, qui vont devenir assez proches, qui vont d'ailleurs se battre ensemble plus tard, enfin se battre aux côtés l'un de l'autre, et ils se retrouvent face à George Washington, alors qui est un personnage qui avait une aura exceptionnelle, qui s'est battu quelques années plus tôt contre les Français, au Canada notamment. Et Lahoueri va être fasciné par ce personnage. Alors tous ceux qui ont rencontré Washington, qui l'ont raconté, le disent. Quelqu'un qui avait un énorme charisme, voilà, et qui va être séduit par le côté batailleur, frondeur de Lahoueri. Mmh. Alors là, il y a un parallèle à faire, parce que en quelques semaines, Washington va avoir en lui, face à lui, deux grands officiers français, Armand de Lahoueri et le jeune Lafayette. Donc Lahoueri 26 ans, Lafayette 19 ans. Et alors là, il y a un mystère. Lafayette, 19 ans, arrive au mois de juin 1777. Lahoueri est arrivé en avril. Lafayette, 19 ans, est aussitôt fait général par Washington. Et Lahoueri, lui, va être fait colonel. Alors, il y a une raison à ça. D'abord, Lafayette était très riche. Il s'était marié très jeune, je crois qu'il avait 16 ans, avec Madame de Noailles. La famille de Noailles était une des familles les plus fortunées en France. Et donc, il était très riche. Et à l'époque, les officiers devaient financer leurs troupes. Donc, évidemment, là, il n'y avait pas photo. Il avait beaucoup plus de moyens que Lahoueri. Et puis, l'autre raison, on le découvre au fil de l'histoire, c'est que Lafayette était un officier brillant, discipliné. Lahoueri était un officier brillant, mais réellement indiscipliné, qui n'en faisait qu'à sa tête, oui. Et qui était sans doute très difficile de canaliser. Et ça, Washington a dû assez vite le voir, à tel point que dans les premières batailles, Washington dit on va le mettre redevant pour voir ce qui... Donc les premières batailles qui vont être terriblement meurtrières, Lahoueri et ses hommes sont mis au premier rang face aux Anglais, ce qui fait que la bataille de Brandywine notamment et quelques autres avant, où il va perdre la moitié de ses troupes, et il était assez vite reconnu comme un officier qui était le premier dans la bataille, c'est-à-dire mmh. il se battait physiquement, il n'était pas à l'arrière à regarder ses hommes se battre, il était toujours devant. Et mmh. assez vite, il s'est construit comme ça une réputation que Washington a plutôt appréciée.
Mmh. Mais c'est une caractéristique que l'on retrouve aussi quand il revient en France. Je pense que pour les mêmes raisons que vous évoquiez, oui. son indiscipline, son côté incontrôlable aussi. Oui,
exactement. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que il y avait du respect entre eux, entre Lafayette et Lahoueri. Lahoueri a sans doute été jaloux de ce Lafayette général bien avant lui, et de retour en France, Lafayette général, lui Lahoueri uniquement colonel. Mais le 14 juillet 88, là je fais un peu un saut, oui. donc un an avant le 14 juillet 89, un an avant la prise de la Bastille, il y a 12 députés bretons qui sont enfermés à la Bastille, parmi eux il y a Lahoueri. Et Lafayette va venir voir Lahoueri. Donc ils sont restés en contact, et il y avait vraiment du respect mutuel. Lafayette était un officier brillant et Lahoueri se battait vraiment très bien, et donc ils ont l'un et l'autre reconnu leur mérite, même s'il y avait un peu de compétition entre les deux.
Mm-hmm. Ouais. Alors une autre rencontre très importante pour Lahoueri, c'est Thomas Jefferson, parce que lui c'est le rédacteur de la Déclaration d'Indépendance, et c'est une page d'histoire qui s'écrit autour des principes même qui ont conduit à la Déclaration d'Indépendance des colonies, et dans ce chapitre, qui est le chapitre 40, je trouve qu'il s'établit comme un écho prémonitoire, un étrange parallèle entre justement le pouvoir royal en France tel qu'il s'exerce sur les provinces, et puis en particulier en Bretagne, et puis ce qui se passe avec les 13 colonies qui veulent, elles, se déprendre du joug de l'Angleterre. Il y a quelque chose de prémonitoire à la situation révolutionnaire qui s'annonce en France.
Oui. En fait, alors la rencontre a réellement eu lieu. Elle a d'ailleurs été racontée par le marquis de Chastellux, qui était un officier qui avait parcouru les États-Unis et qui avait en quelque sorte un carnet de voyage. Donc, dans l'œuvre de Chastellux, on lit ce passage où Lahoueri accueille Jefferson avec à ses côtés un loup. Parce qu'Armand avait trouvé un loup qu'il avait domestiqué, et donc Jefferson est frappé par cette scène, voilà. Et Lahoueri, lui, avait été fasciné par le travail de rédaction de la Déclaration d'Indépendance, par toutes les réflexions qui avaient mené à ça. Ça l'a beaucoup, intellectuellement, ça l'a beaucoup stimulé, en fait. Donc cette rencontre-là a été une rencontre pour lui importante.
Alors, on va, l'heure tourne, on va être obligé d'accélérer un petit peu. J'aimerais citer ce court passage. La rouerie se tut quelques minutes, le regard figé, noir et triste. Je rentre en mon pays, sans le sou, mais le devoir accompli. J'ai vu mourir les braves, j'ai vu ce que la liberté souffle au cœur des hommes les plus ordinaires. Elle les élève, elle en fait des héros capables de défier les montagnes. Elle les conduit à tous les sacrifices, jusqu'à boire leur sang pour se battre encore. Alors la rouerie, donc, il est embarqué sur le navire, le Comte d'Estaing, donc le navire qu'il ramène en France. Ouais. Il a enfin été promu général par George Washington, évidemment il en est très heureux. La guerre d'indépendance est terminée. Il a longtemps hésité à rester en Amérique, oui, rejoindre la France. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel état d'esprit est-ce qu'il est à ce moment-là? Alors, et quel avenir il se voit en France en ce 23 août 1784, quand il débarque à Nantes?
Une chose qui en dit long sur lui, il n'a pas voulu quitter le sol américain avant que le dernier de ses hommes n'ait trouvé soit une somme d'argent, soit une terre pour s'implanter. Et ça, c'est la rouerie. C'est-à-dire que certains de ces hommes avaient même commis des larcins, ils s'étaient engagés à tout rembourser, et il a tout remboursé. Et ce côté-là du personnage est, je trouve, très, très attachant. Alors quand il traverse, il est plutôt fier de lui, il a vu une certaine opinion de lui-même, hein. Et donc il s'attend à être accueilli comme un héros, quelque part. Alors il va être accueilli comme un héros à Fougères, dans son pays, mais à Paris, Lafayette et d'autres sont arrivés 2 ans avant, et ont pris toute la lumière. Et donc, l'arrivée à Paris va être assez dramatique pour lui, puisqu'il ne sera pas fait général dans l'armée du roi, qui ne lui propose qu'un grade de colonel d'une armée de fantassins. Et donc, il refuse, et il repart en Bretagne. Mmh. Et donc, c'est une cassure. Il en veut beaucoup au ministre du roi. Il a encore du mal à en vouloir au roi. Il parle souvent de la faiblesse du roi, mais il en veut beaucoup au ministre du roi, qui lui ont monté la tête, selon lui. Et donc, il est plein d'aigreur. Et il arrive en Bretagne plein d'aigreur. Et là, c'est le début de la dernière période de sa vie.
Voilà.
Alors, les événements... alors, il rentre en Bretagne en 1784, août 84. Il va se marier en 1785.
Et très rapidement, il va être veuf.
Il va être veuf au bout de 6 mois, parce que voilà. cette femme extrêmement riche qu'il a épousée. Alors, il l'a épousée là où je suis né. Près de ma maison natale, il y a une petite chapelle, et c'est là qu'ils se sont mariés. Elle meurt de tuberculose 6 mois après. Il sombre dans une vraie dépression. Il l'aimait, certainement. Et puis, il demande à son jeune médecin, un certain Valentin Cheftel, brillant médecin, dont le père était le médecin de la famille de Chateaubriand, les Chateaubriand, d'accompagner sa femme à Cotteret, parce qu'il faut qu'elle subisse des soins, et donc le médecin va accompagner sa femme à Cotteret, et sa femme va mourir à Cotteret. Mmh. Voilà. Ce médecin, Valentin Cheftel, très proche de la Rouerie, que la Rouerie considère comme un ami cher, il faut se souvenir de son nom, parce qu'il a dans l'histoire un rôle majeur.
Majeur, voilà, on ne va pas le révéler maintenant.
On ne va pas le révéler maintenant.
Mais effectivement. Alors, toute la dernière partie du roman retrace les étapes, le déroulé de la Révolution à Paris, et en contrepoint, tous les efforts déployés par la Rouerie pour organiser l'association bretonne. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Et puis, quels vont être les objectifs de cette association bretonne? Et sur quelle puissance, sur quelle tête ils vont s'appuyer?
Alors, d'abord, il va aller voir le comte d'Artois, qui était exilé à Koblenz, et il va le voir pour avoir en quelque sorte son autorisation de monter cette association bretonne. Et l'opération qu'ils vont imaginer ensemble, alors ça prend évidemment plusieurs mois, c'est que les frères du roi, de leur côté, veulent mobiliser des troupes et se diriger vers Paris en rentrant en France par l'Est. Et la Rouerie, lui, veut monter un réseau et ensuite un soulèvement pour, à partir de l'Ouest, aller renverser la République à Paris. Donc voilà, c'était ça le projet, qui n'aura pas lieu. Parce qu'à l'Est, il y a eu la bataille de Valmy qui met fin à tout ça, et la contre-révolution en Bretagne, en tout cas celle de la Rouerie, va se terminer dramatiquement au moment de la mort du roi Louis XVI. Alors, peut-être en deux mots, mai 92, la Rouerie rentre dans la clandestinité. son château de Saint-Ouen-la-Rouerie est vide, et avec ses lieutenants, il rentre dans la clandestinité pendant plusieurs mois, et là, il va se cacher dans les manoirs et les châteaux, en Mayenne, en Haute-Bretagne, et jusque dans les côtes, dans les côtes du Nord de l'époque, oui. et jusqu'au manoir de la Guillaumarais, et là, sa tête est mise à prix. Danton a mis la tête de la Rouerie à prix, il est pourchassé, il va être trahi, et il arrive malade, il a fait une chute de cheval en janvier 1793, en pleine nuit, au manoir de la Guillaumarais. Janvier 93, donc le roi est guillotiné le 21 janvier, et Armand va mourir de maladie, de fièvre, dans la nuit du 30 au 31.
Voilà, quelques jours après.
Quelques jours après. Mmh. Et c'est là, au manoir de la Guillaumarais, qu'il va apprendre la mort du roi, en lisant un journal qui est arrivé là, qui a été mis sous ses yeux par hasard.
Et qu'on essayait de lui cacher.
Alors, il sombre dans des fièvres, il meurt. Et là, les propriétaires des lieux n'avaient pas d'autre choix que de le cacher, parce que sa tête était mise à prix, et tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir abrité la Rouerie finissaient la guillotine. Et donc, la Rouerie est enterrée dans un petit bois, derrière le manoir. Au passage, sa tombe existe toujours aujourd'hui. Mais quatre semaines après sa mort, quatre semaines après qu'on l'ait enterré, des représentants de la Convention arrivent, vont faire boire les domestiques et vont déterrer le corps de la Rouerie pour le décapiter. Mmh. C'est dire ce qu'il représentait pour la Convention.
Alors, c'est une scène que vous décrivez. C'est particulièrement violent, particulièrement ignoble également. Oui. Alors, est-ce que l'on peut affirmer que, comme on le lit parfois, que cette association bretonne structurée par la Rouerie, elle a d'une certaine manière engendré aussi le mouvement de la chouannerie? On le lit parfois, est-ce que c'est vrai?
Alors, le mouvement de la chouannerie, on parle bien de la chouannerie bretonne, il trouve ses racines, évidemment en Haute-Bretagne, mais aussi dans le Maine. Jean Chouan, le premier Chouan, c'était on dirait un Mayennais aujourd'hui, hein, de Saint-Ouen-des-Toits, à côté de Laval. Les vents de l'histoire soufflaient. Et tout ce qu'a fait la Rouerie, ça s'inscrivait là-dedans. Donc ce n'est pas à lui seul. Il est un précurseur, de fait. La chouannerie bretonne, le soulèvement, c'est mars 93, donc la Rouerie est mort depuis près de deux mois, depuis un mois et demi. Il avait prévu un soulèvement. Le soulèvement aura lieu en mars 93, mais il n'est plus là pour le mener. Et certains de ses lieutenants vont devenir des chefs chouans. Voilà. Donc, précurseur de la chouannerie, oui. Initiateur, je ne dirais pas ça, parce que c'était un mouvement général. Les vents de l'histoire soufflaient, et je crois que ça emportait tout.
Toute dernière question. Je crois qu'on arrive vraiment tout à fait au bout de notre temps. Quel serait, à vos yeux, l'héritage contemporain d'Armand de la Rouerie et l'actualité de ce roman dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Démocratie, liberté, égalité, voilà. Comment tout ça s'inscrit?
Alors, c'est difficile à dire, évidemment, et ce serait bien prétentieux de ma part. Je pense qu'il serait régionaliste aujourd'hui. Il ne supportait pas le pouvoir centralisé parisien, ça c'est certain. Il ne supportait pas ça. Cette révolution décidée à Paris, violente, voilà, il n'envoyait que les mauvais côtés. Et donc je pense qu'il serait aujourd'hui sans doute un grand décentralisateur. J'ai souvent eu le sentiment que c'est un personnage qui s'est un peu trompé d'époque. Il a mené des combats un peu ingagnables, mais il y allait sans arrêt. Et je pense que peut-être canalisé différemment, et à une époque où il aurait mieux trouvé sa place, il aurait peut-être pu faire de grandes choses. En tout cas, c'était un homme valeureux, courageux et généreux. Et c'est en cela qu'il est intéressant de s'en souvenir.
Vous le défendez très bien à travers ce roman. Alors, je ne parle pas de défense, de prise de position. Hein. Non, tout à fait. Ses qualités sont là, mais aussi ses côtés très insupportables. Hein. Un très bon roman, franchement. Nous arrivons au bout de cette émission, François-Xavier Lefranc. Merci infiniment
merci à vous
d'avoir participé et de vous être prêté au jeu de mes questions. Page blanche se referme. Nous parlions donc de votre roman, j'en rappelle le titre, Je boirai mon sang, paru en 2023 aux éditions Robert Laffont, que je remercie pour leur service de presse. Merci également à mon indéfectible réalisateur Frédéric Guyon qui nous a mis en onde. Je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Isaline Rémy. Passez une excellente semaine et d'ici là, selon la formule consacrée, portez-vous bien.